Il est 13h30, je reçois Jacques Leblanc au téléphone. Jacques, bonjour.
Bonjour Marc.
Comment ça va ?
Très bien.
Voilà, Jacques Leblanc, donc, qui est rédacteur en chef, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Hein, rédacteur en chef et également fondateur, créateur d'un magazine que tout le monde connaît forcément, qui s'appelle Jukebox Magazine.
En plus, qui fête ses 24 ans ce mois-ci.
Ce mois-ci, d'accord. Donc 24 ans d'existence pour un magazine qui est né au milieu des années 80, à une époque où peut-être on avait besoin de revenir sur des choses musicalement parlant. Est-ce que c'est la nostalgie d'abord qui a guidé la création du titre ?
Ça en fait partie, mais c'est surtout l'amour de la musique. Moi, je suis tombé dedans tout petit, j'avais pas 10 ans.
Ouais.
Johnny Hallyday, Chaussette Noire, Chat Sauvage.
Voilà.
Et puis après, ben, les Rolling Stones qui ont été le grand choc de ma vie. Et de là, ben, revenir aux origines, déjà avec Elvis Presley, avec Chuck Berry, tous ces gens-là. Et puis aussi Muddy Waters, Bo Diddley, aller aux origines de la musique. Et puis moi, c'est, je suis devenu un peu une éponge. Je veux dire, de Sylvie Vartan aux Sex Pistols. Il y a des gens comme Mickey Baker qui ont accompagné à la fois Sylvie, Ronnie Bird, Billy Bridge. Donc je trouve une grande jonction dans la musique au sens
très large. Oui, tu parles de Mickey Baker, il a même joué avec Chantal Goya, je crois, dans les années 70. C'est un garçon qui a tout fait. 60, pardon, oui, exact. Et écoute, moi, je ne vais pas me hasarder à te coller hein, sur les années de sortie, les numéros de matrice et tout. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, pas seulement la nostalgie, bien sûr, l'amour de la musique avant tout. Et puis, j'allais dire...
Non plus, hein. C'est vrai qu'on a été bercé. C'est vrai que les années 60, c'était très, très riche. À l'époque, les artistes sortaient 3, 4, 45 tours par an, des fois 2 albums par an. Il y avait une création musicale assez fabuleuse. Mmh. Tant... Au niveau des reprises, il nous a redécouvert tout le patrimoine des années 50, en blues, en rock'n'roll, et au niveau aussi en création avec les Beatles, les Rolling Stones, les Kings, les Who. C'était vraiment très très riche, et tant sur la scène française que sur la scène bien sûr internationale, avec les États-Unis en premier, et puis aussi l'Angleterre.
Alors si on parle des années 60 et de ce qui se passait en France à l'époque, à partir des Chats Sauvages, à partir donc de Dick Rivers, Eddie Mitchell, le Clo-Clo, on a l'impression à la réécoute de ces 45 tours qu'il y a beaucoup de choses, enfin c'est même pas une impression, ça s'avère souvent vrai, que ce sont des réécritures complètes de tubes américains en fait.
Il y a beaucoup d'adaptations, c'est vrai, mais aussi beaucoup de créations originales qu'on a tendance un peu à occulter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Par exemple, Si tu n'étais pas mon frère, d'Eddie Mitchell, Société Anonyme, ce sont des créations originales. Il faut saisir sa chance de Johnny Hallyday ou Les Bras en croix, c'est aussi création originale, qui sont à mon avis du même niveau que quand il fait...
Oui, allô. Ah, on a un petit problème de téléphone.
Non, moi j'entends très bien.
Non, c'est bon, alors pardon, vas-y, je voilà. Te laisse continuer.
Donc je disais que, un peu occulté les créations originales françaises, ils sont même si on prend Claude François, mais quand le matin, c'est une super création originale aussi. Après, les goûts et les couleurs, c'est autre chose.
Mmh. Ah oui, ben, tout à fait. Alors, je voulais revenir à Jukebox Magazine, parce que donc là, nous sommes en 1984. Tu as déjà écouté pas mal de choses. Tu disais que tu avais découvert la musique, surtout grâce aux Rolling Stones. Donc, à cette époque-là, qu'est-ce qui a été le déclencheur, j'allais dire, et puis également, quelles ont été les rencontres qui ont présidé à la création de Jukebox Magazine ?
Déjà, il y a l'esprit discours rouge, Jean-Claude Berton, et en même temps, salut les copains, Daniel Filipacchi. C'est un peu d'être quoi, le coin du spécialiste, et en même temps, essayer de vulgariser au plus grand nombre.
Je vois
un peu aux collectionneurs, quand ils sont deux, il y en a un de trop. Moi, si demain, c'est comme pour ton émission, si demain on est 10 000 et après on est 100 000, c'est mieux. Plus on est nombreux à partager les mêmes passions, même si on a après des différences, il y a des petites chapelles dans chaque catégorie, c'est d'être le plus grand nombre à aimer cette musique qui nous a fait tant vibrer.
Donc d'abord le partage, et alors le fait que ce soit distribué...
Oui, le partage est vraiment important. Oui,
ouais, bah, oui, la musique c'est fait pour être partagée, voilà. Hein, c'est bien connu. La diffusion de Jukebox Magazine, est-ce que ça a été en kiosque immédiatement, ou est-ce que ça a d'abord été sous le manteau
distribué à la main, on peut le dire.
Oui.
Jusqu'au numéro 6, au numéro 7, comme on n'y arrivait pas, on critique toujours les NMPP, mais bon, c'est quand même le seul réseau français qui peut permettre d'accéder et de faire connaître, qui sert de vitrine pour faire connaître un magazine. Donc au numéro 7, on est passé en kiosque, et puis on est monté comme ça gentiment jusqu'aux années 90.
Mm-hmm.
Et puis depuis, il faut quand même rappeler qu'il y a un peu une récession sur tout ce qui est avec l'arrivée du CD et puis après l'Internet. Sur tout ce qui est la musicale aujourd'hui, quoi, ça, le marché est un peu en crise.
Oui, alors le marché de la musique, bien sûr, mais le marché entre guillemets donc des revues musicales, bon ben il y a autant de titres qu'avant, c'est pas toujours les mêmes, mais je sais pas.
Il y a plus de titres qu'à l'arrière. Moi, j'ai collaboré à Bess, Rock et Folk, j'ai fait Extra,
oui.
Différents magazines dans les années 70. Et à l'époque où il y avait un fort marché d'acheteurs, il n'y avait que 3 ou 4 revues.
Oui, oui.
Aujourd'hui, que le marché est tellement segmenté, il y en a peut-être 20 ou 30.
Oui.
Alors que on est de plus en plus dans des toutes petites niches.
Ben oui, des petites niches, parce que si on regarde, par exemple, dans une maison de la presse un petit peu étoffée, on s'aperçoit que rien que dans le métal, par exemple, on trouve 5 ou 6 titres, il y en a autant dans le rap, etc. C'est
bien
très,
sûr,
très
oui.
ciblé.
Oui.
Dans le blues, je prêche pour ma chapelle aussi, il n'y en a pas énormément. Il y a Blues Magazine, bien sûr, qui rayonne sur la région parisienne, et puis Blues Again, qui se trouve un petit peu partout en France, mais pas dans tous les kiosques, et puis ça s'arrête vite là. Pas pour le rock.
Je les connais, ils aiment ça, quoi. Ils font partie de leur passion. C'est
bien sûr,
c'est un peu similaire à Dubox, sauf que nous, on peut aussi bien traiter de Baby King ou Muddy Waters que faire Mylène Farmer, quoi. Mais
alors,
on veut le faire avec la même passion à chaque fois, la même rigueur.
Alors, tu m'amènes à une question que je vais te poser tout à l'heure par rapport à la composition d'un numéro de Jukebox Magazine. Juste une petite question encore avant d'écouter le premier titre de ta sélection. Donc, par rapport à la fréquence de parution, j'y arrive. Est-ce que ça a été mensuel dès le départ, même quand c'était pas distribué par
Non, c'était trimestre. Au début, bon, moi, je voulais faire un mensuel, mais on avait très très peu de moyens.
Oui.
On n'en a toujours pas beaucoup d'ailleurs. Même si on veut que la pression est un peu une revue un peu luxueuse,
c'est un bel objet en tout cas.
Hein. Et donc on était trimestriel pendant 2 ans.
Mm-hmm.
Après on est passé bimestriel, donc tous les 2 mois. Et au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, on a réussi à trouver un rythme mensuel.
Alors, un mensuel, bon, quand au départ, on se lance dans un magazine, on ne sait pas forcément si on va devenir le salarié. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour même une équipe étoffée? Je veux dire, il y a quand même un rythme de travail qui est assez énorme pour animer un mensuel, non?
Bien sûr, parce qu'à la fois, on fait l'argus de la collection de disques, qui est où il faut tout créer,
oui.
des articles, mais bon... Je pense que si on aime ça, on vit pour ça, et c'est vraiment ma passion, et je pense que l'équipe qui est avec moi a la même passion de la musique, et on a à cœur de faire vivre ça. En plus, quand on fait les salons de disques de collection, là, le 6 disques, le prochain aura lieu les 11 et 12, les 11 et 12 octobre.
Oui, le 11 et 12 octobre, je reprends, parce que là, c'est vrai que la liaison téléphonique n'est pas terrible. 11 et 12 octobre, salon du disque, à l'espace Champéret, hein, c'est
voilà.
Ça, Jacques.
On aura Vigon qui chantera du rock'n'roll et du rhythm and blues aussi en attraction.
D'accord, ça parle à certains d'entre nous. On va poursuivre l'interview, Jacques, juste après ta première sélection. Alors pourquoi les Stones? Moi je crois qu'on a déjà compris.
Oui, c'est. Je veux dire, au début, il y a les Français, il y a un peu Cliff Richard, des Shadows, un peu Elvis. Mais bon, au début l'anglais c'est un peu difficile. Les Beatles, j'y accroche un petit peu, mais vraiment quand il y a les Stones, c'est.
D'accord.
Je sais pas, c'est une nouvelle naissance.
Donc je te poserai pas la question rituelle, plutôt Beatles, plutôt Stone. Là voilà, Jacques Leblanc a choisi son camp depuis fort longtemps. On va écouter un morceau de blues des Rolling Stones, parce que c'est vrai que les premiers albums des Stones, on l'oublie souvent, c'était du blues. Pourquoi le choix de ce titre, I'm a King Bee?
Bien, par rapport à ton émission d'abord,
mm-hmm.
Et puis c'est un morceau à l'époque qui m'a fait vibrer. Je me souviens quand j'étais le 45 tours, j'adorais les morceaux comme Route 66, comme Carole, mais I'm a King Bee il y avait une atmosphère, et je le mettais plusieurs fois de suite, à chaque fois, en montant le son régulièrement. Comme le morceau durait au moins 10 minutes, et je trouvais ça fantastique comme morceau.
D'accord. Jacques, on va écouter ça, on se retrouve juste après.
Ok, merci.
Well, I'm a king, babe. Buzzing around your head.
Voilà, version des Rolling Stones, bien sûr, I'm a King Bee. On est toujours avec Jacques Leblanc, rédacteur en chef de Jukebox Magazine, dans ce 720e Sweet Home Chicago. On est en quelle année, là? 62, 63
64.
64, d'accord. Donc c'est
64, le premier album, et quand je le réécoute, ça me fait toujours le même effet. Hein.
Je voulais revenir sur ta sélection de disques. Je te demandais, comme à tous les invités de cette série d'émissions par rapport à la presse musicale, de choisir 3 titres. Le second, c'est un Français qui chante en français, hein, c'est ça, Ronnie Bird. Il avait pas mal, il avait un peu quitté les studios pendant pas mal d'années. On en entend à nouveau parler depuis quelques années, Ronnie Bird. Et je crois qu'on l'avait pas mal oublié, non?
J'ai fait beaucoup pour qu'on ne l'oublie pas, moi, dans Jukebox Magazine, entre autres, en lui consacrant 2 couvertures, ce qui était un peu risqué.
Ouais.
C'est voilà. Un peu l'autre choc de ma vie. Je vois pour la première fois par rapport à Johnny ou Eddie où il y a plus de différence d'âge, quelqu'un avec qui je suis beaucoup en symbiose, il a le look, il a tout, il a comme j'aimerais envie d'être. Et puis il chante des morceaux qui me bougent très très fort. Là j'ai choisi un morceau plus bluesy par rapport à ton émission, c'est Ma vie s'enfuit.
D'accord, ben écoute Jack, on va écouter ça, on se retrouve juste après. Ma vie s'enfuit, Ronnie Bird. C'est assez rare d'avoir cette clairvoyance en étant tout jeune. Hein. Je ne sais pas en quelle année ça a été enregistré, ça, Jacques
65.
Il avait quel âge, René Bird, en 65?
Il est né en 46, tu vois.
Ouais, donc 19 ans. 20 ans. Tu parlais tout à l'heure en antenne, au tout début, de gens comme ça qui sont pas vraiment disparu, mais qui ont mené une autre carrière complètement différente et qui, à l'âge de la retraite, se remettent à la musique. On peut en citer quelques-uns parmi les gens qui en 2008 réémergent à nouveau des années 60.
Bien sûr, nous, ça s'est passé depuis. Quand on a fêté nos 20 ans du journal Montparnasse en octobre 2004. Mmh. On a retrouvé des gens comme Mac Shannon, après Vic Lawrence, Danny Boy, Noël Deschamps, Gigon. Mmh. Et maintenant, on fait régulièrement des concerts du journal Montparnasse avec à la fois les gens de cette époque-là. Et puis des artistes plus actuels comme Chris Evans, Ricky Norton, les Sockettes Blanches, qui font vivre la pérennité, je dirais, sur cette noire Elvis Presley pour faire un raccourci.
Il y a des déménageurs également qui sont dans la bande, non?
Ouais, exact, aussi, hein? Oui. Il y en a de plus en plus qui perpétuent. Là, on a retrouvé Jean Védely, qui était le bassiste des Pirates. Le chanteur est mort et qui fait envie aussi le répertoire des Pirates.
D'accord. Donc, Jukebox Magazine, c'est pas seulement un magazine, mais c'est aussi quelque chose qui est structuré autour d'un certain nombre de rubriques. Il y a des collaborateurs que j'imagine nombreux et dont certains sont là depuis le début. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns?
Bien sûr. Disons, pour résumer, Jukebox Magazine, c'est parler du passé, mais on vit dans notre temps. Donc, c'est de faire vivre la collection de disques avec les conventions de disques comme le CIDISC, là, les 11 et 12 octobre à l'Étoile Champéret, avec une équipe qui, elle aussi, est passionnée. Donc, Jean-William Toury, qui est là depuis le numéro 1, d'accord, par exemple. Jacques Barsamian, qui nous a rejoint en cours de route et qui était au départ un des plus vieux journalistes de rock, encore en activité, puisqu'il était à Disco Revue, Rock et Folk, Pop Musique.
Ah oui, il signe dans Rock et Folk depuis très longtemps. Moi, je dois avoir acheté les premiers Rock et Folk vers 72, il était déjà dedans.
Ah non, en 72, il n'y était plus.
Ah non, tu vois, c'est doit être des vieux numéros que j'avais.
Voilà, lui, il était en 66 à l'origine.
Ah, d'accord.
Il est arrivé au numéro 1 dans les kiosques, il y avait eu une sorte de numéro avant en spécialité. Il avait écrit pour Salut les copains également aussi à une époque avec Raymond Mouly. Mmh. Bon, il y a Pierre Layani qui est notre secrétaire d'action et qui est très efficace. Bernard Mazanès, Christian de Vlaers qui est notre correspondant belge et qui fait des reportages assez fouillés. Et puis question photo, il y a Jean-Louis Rancurel qui est vraiment notre archiviste qui est là aussi depuis Disco Revue.
D'accord. Alors le
choix... Il y a d'autres, si je ne les ai pas cités, c'est pas pour ça qu'on... On les aime pas.
C'est vrai qu'on peut pas.
Il y a aussi qui est un passionné, qui est un jeune et qui adore ça.
D'accord. On peut pas forcément citer tout le monde, mais c'est vrai que ça emmène le lot à combien. Vous êtes combien finalement? Une trentaine, quarantaine de collaborateurs?
Non, on a un petit nombre. On a une petite 5-6 plus quelques collaborateurs avec on est une dizaine à tout casser. Hein.
D'accord, c'est tout.
Après, il y a des gens, des fois, qu'on voit une fois parce qu'ils maîtrisent un sujet passionnément. Mm-hmm. Et puis qu'on. C'est du coup par coup un peu.
Alors comment se fait le choix de la une dans le numéro 261, il y a Sheila, dans le prochain tu m'as dit il y aura les Beatles, il y a un équilibre qui se fait entre français, étrangers, anglais, américains.
Il y a un équilibre justement entre français et étrangers, et puis que dans chaque numéro on traite un peu les années 50, 60, 70 ou 80, des fois même plus actuels, puisqu'on a parlé de groupes récents comme les Bébés Bruns, comme les Nast.
D'accord.
On essaie de ne pas trop avoir de hier et d'être assez large dans nos choix, mais toujours sous l'aspect collection de disques.
Eh bien écoute, ça c'est tout à votre honneur, et c'est vrai que ne pas s'enfermer forcément dans un musée et puis faire partager avant tout, c'est quand même très valeureux, très méritant. Enfin, c'est un avis personnel.
Hein. Quand on fait Sheila, il n'y a pas de côté people. Hein. On traite Sheila comme on traite Elvis.
D'accord.
voilà.
C'est-à-dire
la même rigueur et le même aspect musical.
Mmh, mmh. Et vous parlez de sa période disco, par exemple, en 77, 78, des choses comme ça,
c'est... Voilà, voilà. Mmh. Et là, par exemple, le prochain article, c'est sur la couverture, c'est sur les Beatles. Je vais traiter les 45 tours américains des Beatles qui apportent un plus pour la collection, qui sont complètement les couplages dans les années 60. Chaque pays faisait un peu sa sauce. À l'époque, ça nous choquait parce qu'on voulait à tout prix voir les originaux. Aujourd'hui, c'est ce qui fait le charme de la collection de disques, parce que les coupages allemands sont différents des français, des anglais, des américains. Et au niveau des pochettes, des choix des faces B, des fois il y a des titres qu'on trouve dans un seul pays. Mmh. Ça donne vraiment du sel à la collection de disques.
Qu'est-ce que tu penses, ce sera une de mes dernières questions, Jacques, qu'est-ce que tu penses des groupes qui font du tribute, comme par exemple les Rabbits qui font du Beatles? Enfin, il y a plein de tributes en ce moment qui émergent un peu partout.
Disons que nous, on a fait un groupe au CIDISC hein, qui était venu faire les Beatles, entre autres. Et comme les Beatles se sont plus en activité, ben, ça permet à plein de gens qui ne nous ont jamais vus de voir ce genre de groupe. Alors c'est vrai que on amène, nous, des Soquettes Blanches qui font des chaussettes noires.
Ouais.
Et Eddie Mitchell ne veut plus faire de chaussettes noires. Donc ça permet à une clientèle Alors les disques, c'est sympathique, mais c'est vrai que sur scène, ça apporte un phénomène qu'on peut pas retrouver. Alors quand le groupe existe encore, bon, c'est vrai que c'est moins intéressant.
D'accord, il vaut mieux voir l'original quand il existe toujours, c'est ton message.
On a les Stones, on peut voir... Quoique, les groupes qui font aussi les covers des Stones, bon, c'est moins marquant parce que le groupe est encore en activité, mais ils font des fois des répertoires qu'ils ne font plus.
Voilà, c'est sûr que si on regarde un concert des Stones maintenant, ben on n'a pas que des morceaux des années 60, il s'est passé tellement de choses depuis, quand on a plus de 40 ans d'existence, faire une setlist d'1h30 ou 2h, c'est pas évident.
Ils ont du choix, ce sont des groupes, ils peuvent faire deux concerts, parce qu'avec deux setlists différentes.
Ah oui, même plus, je pense.
Même plus, oui.
Ouais. Jacques Leblanc, hein, rédacteur en chef de la revue Jukebox Magazine, dernière question, comment est-ce qu'on fait pour se procurer le magazine? Est-ce qu'il est vraiment distribué partout ou,
En kiosque. En France, il y a 30 000 points de vente, on va en toucher 5 000 à peu près. Bon. Donc si on cherche bien, on peut le trouver partout.
Eh bien, il suffit d'en faire 6 et... D'accord. Et on peut s'abonner. Alors, comment faire pour ça?
Eh bien, Jukebox Magazine, 54 rue Saint-Lazare, 75-009 Paris, 65 € pour 13 numéros, et soit en cadeau, un CD ou un DVD.
D'accord, et ben voilà, c'est dit, c'est parfait. Jacques, je te remercie d'avoir participé à cette émission, et puis longue vie bien sûr à Jukebox Magazine, et puis on va certainement rester en contact parce que voilà, il y a des choses intéressantes à échanger, je pense.
Bah, longue vie à la musique de Chicago, hein.
Bah oui, complètement, Sweet Home Chicago, et pas que d'ailleurs. Bah, l'émission existe depuis presque 16 ans, mais voilà, c'est pas près de s'arrêter, je pense.
C'est éternel. La musique vient de là, comme disait Johnny, elle vient du blues. Hein.
Ça vient de là, ça vient du blues, exactement. Jacques, merci beaucoup, au revoir.
Merci Marc.